Studio Tamani, voici les informations en français.
Affaire Bakary Togola est co-accusé. Le verdict est tombé ce mardi. Ils écopent de 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA. La ville de Kaindi a désormais un deuxième lycée public. L'infrastructure inaugurée hier est une promesse du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de sa visite à Kaï en juillet 2023. Le Mali fait face à une forte malnutrition aiguë infantile. Pour inverser la tendance, une étude a été menée auprès de 3000 personnes dans 13 communes dans les régions du centre et du nord, entre autres. À l'instant, le sommaire de cette édition, tout de suite, les détails. Bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsetou Touré. Comme annoncé à l'instant, 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA. C'est du moins le délibéré dans l'affaire Bakary Togola et co-accusé. Au bout de quelques jours de procès, les jurés ont prononcé le verdict ce mardi 27 août 2024. Cette affaire concerne l'atteinte des biens sociaux. Ce dossier était la dernière affaire inscrite au rôle de la Cour d'assises spéciale sur les crimes économique et financier jugé à la cour d'appel de Bamako. Le point avec Ousmane Nyalibouli.
Le verdict de la cour est tombé. Bakary Togola et ses 4 co-accusés sont condamnés à 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA chacun. Il s'agit de Solo Bamadi Keita, Seydou Koulibaly, Drissa Traoré et Kassé Koulibaly. L'ancien président de l'APECAM et ses 10 co-accusés étaient poursuivis pour atteinte au bien public et complicité faux et usage de faux. Mais au bout d'une semaine d'audience marquée de débats contradictoires, les faits ont été requalifiés par la cour à la demande des avocats de la défense. Les accusés ont donc été jugés sur la base d'atteinte aux biens sociaux. À la barre, les accusés ont tous nié les faits en bloc. Selon eux, l'argent supposé détourné avait été en grande partie investi dans les formations initiées à l'attention des producteurs de coton et le fonctionnement des fédérations. Rappelons que Bakary Togola et ses co-accusés étaient soupçonnés pour avoir détourné 9 milliards de francs CFA, un fonds qui appartient à la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali sur la période de 2013 à 2019. A noter que Bakary Togola est poursuivi encore dans la même affaire pour des faits de blanchissement d'argent.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement appelé Twitter. Les forces armées maliennes ont intensifié ces derniers jours les frappes aériennes dans la zone frontalière avec l'Algérie. Ces opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens ont fait, selon l'état-major général des armées, une vingtaine d'individus armés neutralisés. Le point avec Intala Ag Bilal.
Dans un communiqué publié ce lundi, la hiérarchie militaire a annoncé avoir intercepté un convoi terroriste transportant des armements dans la localité d'Anafis, sur la route de Tessalit. Le convoi composé de deux véhicule tout-terrain a été localisé par le vecteur aérien des FAMA qui les ont frappés avec précision. Dans un autre communiqué en date dimanche 25 août 2024, l'état-major général des armées a aussi annoncé la neutralisation d'une vingtaine d'individus armés à Tenzawatin dans la région de Kidal. Selon la note, ces résultats ont été obtenus à la suite d'une mission de reconnaissance offensive qui a permis de repérer et d'identifier des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans la cour d'une concession dans la localité à précision. Les FAMA réaffirment leur engagement total à protéger les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire national, rappelle le haut commandement militaire.
Autre titre de ce journal, un deuxième lycée public à Kaï a été inauguré ce lundi 26 août 2024. Ce joyau comprend entre autres 15 salles de classe équipées, de 600 tables bancs modernes, une bibliothèque équipée, une salle informatique de 40 ordinateurs, une direction générale et salle de réunion équipée et un terrain de basketball. L'infrastructure était une promesse du président de la transition Assimi Goïta lors de sa visite à Kaï le 23 juillet 2023. Nous retrouvons notre correspondant à Kaï, Mahamadou Samba Diallo.
C'est un nouveau soulagement pour la population. Les habitants de la cité de Rai ont salué ces gestes du président de la transition. Ils estiment que ce lycée va permettre à beaucoup d'élèves de poursuivre leurs études.
Nous sommes vraiment contents et heureux en même temps d'avoir ce nouveau lycée. Ça nous facilite le déplacement de Kaindi à Kaiba.
On ne pensait pas avoir maintenant.
On remercie le président de la transition pour le respect de l'engagement.
Selon le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sissavani, ce lycée va favoriser la gestion du problème des effectifs pléthoriques et permettre aux élèves de Kaindi d'étudier non loin de leur famille.
La gestion des flux d'élèves s'en trouvera évidemment améliorée au niveau du cycle secondaire. Cette superbe infrastructure scolaire témoigne du grand intérêt du président de la transition à l'endroit de notre système éducatif.
Le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, qui a représenté le président de la transition, a demandé à l'administration de veiller à cet établissement. Dekaï Mahamadou Samba Diallo pour Studio Tamani.
Le projet de développement d'urgence a restitué ce lundi ses résultats de l'étude sur la problématique de la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans au Mali. Cette étude analyse les difficultés liées à la malnutrition afin d'améliorer le fonctionnement de sa chaîne de réponse dans le pays. Ce projet a touché plus de 3000 personnes dans 13 communes dans les régions du centre, du nord et une partie de la Mauritanie. Docteur Mamadou Traoré, coordinateur plaidoyer nutrition à IRC Mali, est au micro de Fatmata Kodio.
Dans le cadre de la prévention de la malnutrition pour la petite enfance, il s'est trouvé que malgré la prévention que nous faisons face à des cas de malnutrition et qui étaient orientés vers les structures de santé pour la prise en charge. Nous avons identifié quelques goulots d'étranglement et notre appui durant la phase projet, c'était d'accompagner l'État. Soit nous appuyons le transport des intrants, soit nous facilitons les supervisions dans la prise en charge de ces enfants. Le rapport de l'étude a mis l'accent sur les différents goulots et les causes de ces goulots. Le rapport aussi a formulé des recommandations qui pourront être versées dans les documents de l'État, qui pourront être des documents de plaidoyer pour que ensemble l'État et les partenaires nous conjuguons nos efforts.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Au Mali, généralement, des hommes comme des femmes portent le bracelet parure ou objet de protection. Son acceptation dépend de la conviction de tout un chacun. Que disent les différentes religions sur le port du bracelet? Comment est-il perçu dans notre société? Les détails dans ce dossier réalisé par Khalifa Goïta avec la voix de Moumine Saint-Debout.
Pour le port du bracelet, chaque citoyen a sa part de vérité. Écoutons ses réactions recueillies à Bamako, Kai et Koulikoro.
Moi, je porte un bracelet en argent. C'est sur une forte recommandation de ma famille. Le bracelet en argent a des vertus de porte-bonheur, de protection contre les mauvais sorts.
Je porte le bracelet pour mes rangos. Les gens qui le portent avec des sacrifices, je ne crois pas à ça.
Moi, quand même, j'y crois. J'ai hérité le mien de mon père. J'avais du mal à dormir. Mais depuis que je le porte, je n'ai plus de problème d'insomnie.
Dans la foulée, Adam Ankouni, chef de famille à Kadjolo, estime que le port du bracelet est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Il soutient que cela fait partie de nos us et coutumes. Un fer au poignet ou au doigt a beaucoup de valeur.
Avant, on faisait porter à un nouveau-né un bracelet pour le protéger des problèmes. On ne voit pas un problème venir. Ces bracelets ne sont pas de simples bracelets ordinaires. Ils protègent certains et d'autres se défendent avec. Mais de nos jours, de plus en plus, ils sont délaissés. En tout cas, nous y croyons.
La religion musulmane est formelle là-dessus. Le port des bracelets est prohibé pour les hommes. C'est ce que nous dit Alassane Modibouba, islamologue.
D'ordinaire, dans la culture arabo-musulmane, les bracelets sont automatiquement identifiés comme des parures appartenant aux femmes. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tout homme qui se ressemble à une femme siama est maudit par Allah. Toute femme se fait ressembler à un homme est également maudit. Donc un homme ne doit pas le faire. S'en éloigner vaut beaucoup mieux de le porter pour ces questions-là.
Du côté des chrétiens évangéliques, le port du bracelet n'est pas mauvais en soi. Cependant, pour d'autres fins, la Bible ne le recommande pas. C'est ce qu'affirme le pasteur Rata de Djara.
Le bracelet, c'est une parure, un ornement que tout le monde peut porter. Mais des bracelets magiques qui donnent certains pouvoirs ou qui protègent ces bracelets-là, il faut beaucoup faire attention. Ces bracelets sont en rapport avec les démons. Et les démons sont mauvais pour les humains. Selon la Bible, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ se confient à Dieu seul, sans recourir à autre chose pour se protéger.
Malgré ces différents avis, le port du bracelet reste toujours d'actualité et certains croient fermement à ses vertus de protection contre les mauvais sorts.
Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. À présent, Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam. Alors de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir ?
Bonsoir Hamsetou. Dans le grand dialogue de ce soir, nous allons parler du départ de certains partenaires du Mali, notamment de la Suède et du Danemark. Pour en parler, nous avons trois invités. Madame Samake Fatoumata Traoré, enseignante-chercheure, Dr Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales, et Dr Ahmadou Touré, spécialiste en géopolitique.
C'est noté, vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafo au 37 3 2 1. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs CFA de crédit dans votre téléphone. Et c'est ce qui referme ce journal, une présentation de Hamsetou Touré. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le magazine. La féminisation de l'immigration régulière est une réalité au Mali. Un constat fait par les associations d'aide aux migrants. Qu'est-ce qui est à l'origine du déplacement de la jeunesse féminine ? Constitue-t-il toujours une opportunité pour ces femmes et leurs familles ? Des éléments de réponse dans ce magazine Toutes les femmes du Mali. Il est signé Fatih Yatara.
Cette Caïsienne ayant requis l'anonymat qu'on a surnommée Amanda est une candidate à l'immigration. Mon départ est imminent. J'attends juste quelques détails, nous a-t-elle confié. Elle dit être motivée par le désir de venir en aide à sa famille et d'avoir un lendemain meilleur.
Moi, j'ai été motivée par mes amis car beaucoup sont partis et ont réussi leur vie. Elles sont revenues avec une fortune et beaucoup de biens. Certaines prennent désormais leur famille en charge et elles sont indépendantes.
Les cas d'Amanda n'est pas exceptionnel. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir tenter l'aventure. L'ONG Direi Ben de Gao, qui est un centre d'accueil et appui des migrantes de retour de la Libye, indique avoir accueilli récemment des migrants dont la majorité sont des femmes. Ibrahim Miharata Meiga.
Aujourd'hui, on a sous la main 25 migrants, hommes et femmes. De janvier à aujourd'hui, on a accueilli 18 femmes maliennes migrantes. Généralement, ces femmes, elles sont nigériennes, centrafricaines, entre autres.
La plupart des cas de migration clandestine se soldent par des mésaventures et d'autres catastrophes, affirme Li Fatoumata Koulibaly, présidente de la coalition Droit, Intégration et Médiation de la CAFO. Pour faire face à ces drames, elle invite les décideurs à l'élaboration de plusieurs politiques de protection des femmes migrantes.
Et malgré ces emplois, elles sont vulnérables. Elles subissent des violences physiques, sexuelles, psychologiques, non-paiement de salaire parce qu'elles n'ont pas de papiers, elles sont rentrées inégalement. Ceux-ci refusent de payer leur salaire. Et pourtant, aucune politique n'a accompagné ce phénomène pour protéger les femmes. On a tendance à oublier ou à ignorer la migration des femmes.
Pourquoi nous assistons aujourd'hui à une féminisation de l'immigration irrégulière au Mali alors qu'elle n'est pas culturelle? Les traditionalistes évoquent un facteur d'émancipation qui, selon eux, est source de dégradation de nos mœurs et coutumes. Amadou Diallo, traditionaliste.
C'est une pratique nouvelle dans nos sociétés. La femme, dans nos coutumes, elle est faite pour garder sa maison, prendre soin de ses enfants, son mari et ses biens. Elle était responsabilisée, mais juste dans son foyer.
Une situation qui peut conduire à la dislocation de certains foyers et l'effritement de nos valeurs. l'ère sociétale, regrettent les traditionnalistes.
La femme qui opte pour l'immigration revient souvent avec un comportement et une vision différente de ceux de son mari, et c'est là qu'il commence la mésentente.
La pauvreté est l'une des causes directes de l'immigration des femmes, explique le sociologue Foye Tandjigoura.
On a certaines pratiques qui poussent les femmes à partir, telles que les mariages forcés, et également il y a l'échec scolaire. On a aussi l'existence de plus en plus visible des réseaux de migration clandestine. Donc c'est un ensemble de facteurs combinés qui fait qu'aujourd'hui, autant que les hommes, les femmes elles aussi partent.
Mais de notre point de vue, l'immigration des femmes n'est pas un fait nouveau. Depuis des temps immémoriaux, les femmes accompagnaient ou rejoignaient leurs conjoints partis à l'étranger, conclut des sociologues.